Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble évidemment jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes et l'hommage évidemment ce soir à l'une des plus grandes stars du ballon rond. On l'a appris en fin de journée, la légende argentine du foot Diego Maradona s'en est allé. Diego Maradona, champion du monde 86, est mort ce soir, il avait 60 ans. On y reviendra évidemment très largement dans le journal avec Isabelle Millet. Et puis nos invités ce soir, Alain Giresse et Luis Fernandez, ils seront en direct dans quelques minutes avec nous. 19h30, le Club des Idées, spécial Noël ce soir. Comment passer de bonnes fêtes en famille sans aucun risque? Nombre d'invités, distance à table, dernière course avant le réveillon. Après l'allocution du président hier soir, vous vous posez sans doute toutes ces questions. Eh bien avec nos invités, nous y répondrons avec les bons conseils pour ne prendre aucun risque. Voilà pour le programme, mais d'abord le journal Isabelle Millet. Il est 19h, vous êtes sur Europe 1.
La vida mía. No, no fue normal.
Disons-le, ma vie n'a pas été normale.
Gracias a Dios le pudimos dar a la gente sonrisa.
Dieu merci, nous avons pu donner des sourires et de la joie aux gens.
Une vie tout sauf normale. Il incarnait le héros, la star absolue, le dieu du ballon rond. Diego Maradona a succombé à une crise cardiaque aujourd'hui à l'âge de 60 ans. La planète foot est en deuil aujourd'hui.
Notamment l'Argentine, son pays évidemment. On sera sur place à Buenos Aires. Les Argentins pleurent leur légende.
Et les hommages affluent du monde entier pour saluer ce talent unique, ce génie éternel, écrit ce soir Cristiano Ronaldo.
On y reviendra bien sûr très longuement dans le courant de ce journal et tout à l'heure avec nos invités. Au sommaire également ce soir, les commerçants qui se préparent à rouvrir ce week-end.
Et les Français qui ont bien l'intention de fêter Noël comme il se doit, même en petit comité. Et puis on reviendra aussi sur cette confession inattendue de Meghan Merkel, l'épouse du prince Harry. Elle reconnaît avoir fait une fausse couche et elle espère inciter les parents qui traversent cette épreuve à ne pas rester seuls.
La tendance météo avec Anissa qui nous a rejoint. Un peu de changement au programme demain, chère Anissa.
Avec toujours un temps gris et pluvieux dans le sud, au bord de la Méditerranée. Des grisailles demain matin sur la moitié nord. Le soleil s'impose dans l'après-midi et les températures sont en hausse à l'est. Je vous dis tout en détail à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Pelé disait « Platini, c'est le chef d'orchestre. Maradona, c'est le soliste. » Eh bien, le génial soliste s'en est allé.
Oui, Maradona avait 60 ans et une carrière faite de superlatifs, Julien Froment.
Oui, quand on évoque Diego Armando Maradona, la première chose qui nous vient à l'esprit, ce sont ses deux buts contre l'Angleterre, ce fameux 22 juin 1986. Deux buts pour l'éternité, deux buts à l'image du gamin du bidonville de Villa Fiorito à Buenos Aires. Celui qui est rapidement surnommé El Pibe de Oro, le gamin en or, aura marqué l'histoire du football, de son génie sur le terrain et de ses frasques hors des pelouses, avec comme momentum donc cette Argentine-Angleterre. En pleine guerre des Malouines, le numéro 10 de l'Albiceleste marque le but le plus polémique du siècle, la main de Dieu, et 4 minutes plus tard, un chef-d'œuvre digne d'une peinture impressionniste. C'était ça, Diego Armando Maradona, un joueur capable de gagner à lui seul la Coupe du Monde 1986 ou de mettre la ville de Naples sur la carte du football européen. Des buts d'anthologie, des gestes de grande classe, mais aussi sa part d'ombre. Il est contrôlé par exemple au Mondial 1994 positif à l'éphédrine, un contrôle qui sonne la fin de sa carrière à 37 ans. Maradona, le génie balle au pied, n'aura pas le même succès sur le banc de touche, que ce soit avec sa sélection, l'Argentine, ou avec d'autres clubs de seconde zone. Ces dernières années auraient été marquées par de nombreuses hospitalisations, de nouveaux problèmes de drogue, alcool. Il y a encore deux semaines, El Pibe de Oro pensait s'être sorti d'affaire après une opération au cerveau. Mais c'est finalement son cœur qui a lâché, laissant orphelin 45 millions d'Argentins, mais aussi tous les amoureux de football.
Un portrait signé Julien Froment du service des sports d'Europe 1. Merci Julien.
Et on va réécouter tout de suite la voix de Maradona. C'était en 2014. Il revenait alors sur sa vie hors norme.
J'ai 53 ans, mais c'est comme si j'avais 78 ans. Disons-le, ma vie n'a pas été normale. Tout le monde me dit, tu as 53 ans ? 53 ans ? J'en ai vécu 80 avec tout ce que j'ai vécu. Dieu merci, nous avons pu donner des sourires et de la joie aux gens. Tu sais quel joueur j'aurais été si je n'avais pas pris de drogue ? J'aurais été un putain de joueur.
Maradona dans la presse argentine en 2014. On va prendre la direction justement tout de suite de Buenos Aires. L'Argentine en deuil ce soir.
Aude Villiers-Moriamé, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Les Argentins ont encore du mal à y croire, hein. Leur légende s'en est allée.
Oui, évidemment, beaucoup d'émotions dans le pays d'origine de Diego Maradona. 3 jours de deuil national ont été décrétés sur les réseaux sociaux. Énormément de personnes rendent hommage à celui qui était ici surnommé Dios, Dieu, tout simplement. Si certains rappellent les polémiques associées à l'ancien joueur star, comme sa consommation de drogue, c'est surtout l'affection qui domine aujourd'hui dans les messages qu'on peut lire sur Twitter ou Facebook. Hasta siempre, Diego, peut-on lire, ou encore une partie de l'Argentine est décédée aujourd'hui. Le président Alberto Fernandez vient de réagir. Tu nous as rendus énormément heureux. Tu as été le plus grand de tous. Merci d'avoir existé, Diego. Dans les rues de Buenos Aires règne actuellement un silence inhabituel. C'est le choc, en fait, qu'on peut lire sur le visage des Argentins. Certains sont vraiment émus jusqu'aux larmes. Des rassemblements sont prévus ce soir, notamment à l'obélisque en plein centre de Buenos Aires. Des milliers de personnes y sont attendues, et ce, malgré la pandémie de coronavirus.
Merci, Aude Villiers-Moriamé, correspondante d'Europe 1 à Buenos Aires. Le pays, vous l'avez dit, décrète 3 jours de deuil national. Les hommages affluent du monde entier, notamment de Naples, club dans lequel Maradona a connu son âge d'or. Ciao, Diego. C'est notre passé qui s'en va, réagit ce soir Michel Platini. J'espère qu'un jour, nous pourrons jouer ensemble au ciel, écrit le roi Pelé.
Oui, repose en paix, légende, réagit pour sa part Kylian Mbappé, tandis que Cristiano Ronaldo dit adieu à un génie éternel.
Et puis, autre réaction ce soir, celle de Manuel Amoros, l'ancien international français qui avait affronté la légende Maradona en match amical et qui salue lui aussi ce soir un génie.
Quand on est footballeur et qu'on a pu jouer contre cette légende-là, les mots ont du mal à venir. Ça restera pour nous un joueur extraordinaire. Alors Maradona, bien sûr, passé quand même dans des clubs extraordinaires comme le Barcelone et à Naples, où il a été vraiment un dieu aussi. Donc être argentin et être supporter de l'Argentine, Diego Maradona, c'était un dieu, hein, ni plus ni moins. Donc à partir de là, ils l'ont adulé pendant des années et des années. Et déjà, l'aura qu'il a eue, ça a été pour le match de la Coupe du Monde Argentine-Angleterre. C'était pendant la guerre des Malouines. Donc, il a voulu montrer aux Anglais que l'Argentine était quelque part imprenable. Cette main qui marque le premier but, après, il dit que c'est la main de Dieu. C'est la main qu'il a tendue, que Dieu l'a aidé pour marquer ce but-là, pour montrer que les Argentins sont toujours en vie et se redresseront toujours. Quand nous, on est footballeur et qu'on l'a connu, c'est compliqué de pouvoir imaginer que quelqu'un comme ça est parti.
L'hommage de l'ancien international français Manuel Amoros, joint pour Europe 1 par Simon Rubin.
Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur la disparition de cette légende du foot, Diego Maradona, qui a succombé à une crise cardiaque qu'à 60 ans. On y revient tout à l'heure à partir de 19h15 avec Alain Giresse, Luis Fernandez notamment, Manuel Amoros qu'on vient d'entendre et qui sera avec nous, et nos correspondants un peu partout pour évoquer la figure de Diego Maradona.
Europe 1, Julien Bugier.
19h07, restez avec nous. À suivre dans votre journal et dans le reste de l'actualité, les suites de l'allocution d'Emmanuel Macron. Hier soir, on en parle.
Et puis une duchesse qui brise un tabou.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
19h09, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Le Premier ministre Jean Castex détaillera donc demain à 11h les mesures d'assouplissement annoncées hier soir. On les a suivies en direct ensemble par le président de la République.
Oui, il pourrait notamment fixer une nouvelle jauge pour les lieux de culte et préciser également les modalités de réouverture des cinémas, des théâtres et des salles de spectacle à partir du 15 décembre.
Eux, en tout cas, sont fixés. Les commerçants auront bien le droit de rouvrir dès samedi.
Et ils s'en réjouissent, autant dire que depuis ce matin, on s'active pour tout préparer. Écoutez ce reportage dans les rue de Bordeaux de Stéphane Place.
Derrière les rideaux des magasins, toujours baissés ici dans le centre de Bordeaux, des cartons que l'on déballe, des vitrines que les employés décorent. Bref, comme Elisabeth qui tient une jolie boutique de carterie, on prépare la réouverture de samedi.
L'aspirateur, effectivement, pour enlever toute cette petite poussière qui est tombée, et préparer la boutique, la décorer pour donner ce côté féerique de Noël qui nous manquait quand même un petit peu. Tout le bonheur de retrouver cette clientèle qui nous a manqué pendant ces 3 semaines de confinement. On a envie d'être au top pour samedi, mais c'est un plaisir. C'est repartir, aller de l'avant et on va faire de belles journées.
Un peu plus loin, c'est Patricia dans son magasin de vêtements de la rue Sainte-Catherine qui, depuis ce matin, n'a pas une minute.
On n'arrête pas. Les cartons, les 5 repassés. On a reçu quelques nouveautés. effet, il faut tout réinstaller, tout nettoyer, bah, que ce soit beau, quoi. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire peut-être des promos un petit peu la semaine prochaine, parce qu'on a vraiment du stock à liquider. Donc, on fera entre guillemets une semaine Black Friday. Donc, il faut tout étiqueter. Et ça prend un temps fou. C'est un petit peu bizarre de le faire au mois de décembre, mais on n'a pas le choix, vu tout le stock qu'on a, quoi.
Heureux de rouvrir, plusieurs de ces commerçants bordelais nous ont dit tout de même que la prolongation de fermeture imposée aux bars et restaurants risquait de peser sur l'affluence des clients samedi prochain. Bordeaux, Stéphane Place, Europe 1.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1, à Bordeaux. Eux resteront fermés au moins jusqu'à la mi-janvier. Pas de restaurant pour Noël, pas non plus de grandes fêtes. Ce sera ambiance famille à la maison, en petit comité. Pourtant, les Français ont bien l'intention de marquer le coup, peut-être même encore plus que d'habitude.
Et oui, le budget moyen des festivités est même en hausse cette année de 54 euros. Dans cette période morose, pas question. Pierre Herbulot, de zapper le Père Noël, le sapin, la dinde et la bûche.
Ah non, surtout pas en cette année 2020 qu'on a hâte de laisser derrière nous. Deux confinements, un couvre-feu et des gestes barrières à n'en plus finir. Gilles et Guénola ont donc bien l'intention de se faire plaisir pour ces fêtes de fin d'année.
L'idée, c'est de décompresser en fait. Et forcément, du coup, dépenser pas mal à Noël. On a fait effectivement des économies grâce au confinement. Et du coup, on va pouvoir s'offrir des plus beaux cadeaux et offrir des plus beaux cadeaux à nos familles et à nos amis.
C'est vrai que l'objectif, là, c'est de se faire plaisir, mais pas non plus faire des folies, parce qu'on ne sait pas de quoi 2021 saura faire. On ne sait pas s'il y aura la troisième vague, si on va continuer à être confiné ou pas.
Dépenser plus sans faire de folie, ça veut dire un budget moyen de 603 euros, 54 de plus que l'an dernier. Vous le disiez, ça comprend en grande majorité le repas et les cadeaux. Et c'est une bonne action pour Christophe qui pense relance économique.
Ça me paraît légitime pour nous, donc ainsi que pour les acteurs économiques et qui ont perdu de l'argent.
Donc acheter une douzaine d'huîtres en plus, ça peut être un acte solidaire.
Tout à fait.
Un budget moyen en hausse donc, mais qui cache quelques disparités. Si les cadres supérieurs ont prévu de casser leur tirelire, les ouvriers, les retraités et les indépendants touchés par la crise sanitaire ont eux prévu à l'inverse de réduire leurs dépenses.
Le reportage de Pierre Herbulot.
Lors de son allocution hier soir, le président a redit aux Français d'être très prudents pendant ces fêtes de fin d'année. Il a également évoqué la question des vaccins. « Je ne souhaite pas, a-t-il dit, rendre la vaccination obligatoire. »
Et cette mise en garde aujourd'hui du professeur Didier Pitté, grand épidémiologiste qui était l'invité de Patrick Cohen à la mi-journée sur Europe 1. Les vaccins, c'est bien, mais attention, ça n'empêchera pas une éventuelle troisième vague.
Le terrain de jeu du virus demeure celui de 80% de la population. Donc il n'y a pas de différence pour le virus. Il est parfaitement capable, alors qu'il est hyper endémique, de nous proposer, si j'ose dire, une troisième vague, et puis voire même une quatrième.
Mais cette troisième vague, voire cette quatrième, elle ne se fracassera pas sur le vaccin ?
Bien entendu que c'est un espoir extraordinaire. Mais ceci dit, ces vaccins, le temps qu'ils soient à disposition, le temps que nous soyons certains qu'il soit sécuritaire, le temps que nous mettions en place toutes les chaînes qui sont nécessaires à une vaccination de masse, je vous rappelle qu'il faudra qu'au total, nous ayons au moins 60-70% de la population qui soit immunisée. Et donc là, ça va prendre encore du temps.
Voilà, le professeur Didier Pitté qui était l'invité de Patrick Cohen dans Europe Midi.
Dans l'actualité également, la détresse d'une femme, d'une mère qui a perdu l'enfant qu'elle portait. Cette femme, c'est Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, qui ose aujourd'hui briser un tabou.
Oui, elle parle de cette douleur intime vécue par des millions de femmes chaque année, la fausse couche. Alors certains peuvent peut-être trouver ça à première vue un peu voyeur. Pourtant, cette démarche est saluée par les associations qui se réjouissent, Jean-Gabriel Bourgeois, qu'on évoque enfin publiquement ce sujet.
Oui, car dans les colonnes du New York Times, les mots de la duchesse de Sussex sont forts. Alors que j'étreignais mon premier enfant, Archie, j'ai su que j'étais en train de perdre le second. Meghan Markle raconte son passage à l'hôpital aux côtés du prince Harry, une fausse couche qu'elle décrit comme un chagrin presque insupportable. Comme elle, environ une femme sur quatre est concernée au cours de sa vie par une fausse couche. Un deuil intime, souvent vécu dans l'isolement, puisqu'en général, quand une femme fait une fausse couche, elle n'a pas encore révélé sa grossesse à son entourage. Pour l'ordre de l'association AGAPA qui accompagne les femmes touchées par une grossesse interrompue, cette tribune lève un peu le tabou.
Quand elle vit ça toute seule, elle ne s'autorise pas à dire qu'elle souffre. Parfois, il y a de la culpabilité. J'aurais pas dû faire ça, j'ai trop travaillé, je me suis pas écoutée, c'est de ma faute. Donc du coup, quand on peut en parler, c'est vraiment bien qu'elles entendent que c'est normal de souffrir parce que c'était vraiment un enfant en devenir.
comme Meghan Markle, Michelle Obama ou la chanteuse Beyoncé ont témoigné publiquement de leur fausse couche. Et chaque fois qu'une célébrité s'exprime sur le sujet, les associations constatent une libération de la parole des femmes.
Merci beaucoup Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, et notez qu'en cette journée internationale contre la violence faite aux femmes, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à Paris pour réclamer des mesures fortes et dénoncer les effets du confinement sur les inégalités entre les sexes.
Le foot, on imagine que les Marseillais et les Portugais auront une pensée pour Diego Maradona ce soir, puisque vous savez que l'OM reçoit le champion du Portugal en Ligue des Champions, OM Porto. La malédiction en Champions League va-t-elle s'arrêter pour les Marseillais? Il faudra en tout cas l'énergie du désespoir et on suivra ça en fil rouge sur Europe 1. Le coup d'envoi, c'est à partir de 21h.
Merci Isabelle. La météo avec Anissa qui nous annonce peu de changements pour demain.
Oui, très peu de changements, comme aujourd'hui sur les Cévennes, le Languedoc et le Roussillon. Le ciel est couvert avec de la pluie toute la journée et le vent d'autant qui se renforce. En Bretagne et en Normandie, des nuages demain matin, quelques petites gouttes. Partout ailleurs, après la dissipation des brouillards matinaux, le soleil arrive à la mi-journée. Les températures, moins 3 à 10 degrés demain matin et 10 à 18 dans l'après-midi. 18 pour Marseille.
Merci, 18 pour Marseille. Tiens, on va aller à Marseille dans quelques secondes, notamment avec Jean-François Pérez, notre correspondant et notre chef des services des sports d'Europe 1 pour évoquer la figure de Maradona. On va continuer à en parler évidemment jusqu'à 20h avec des invités prestigieux qui vont nous retrouver dans le 18-20. Alain Girès, Luis Fernandez, Manuel Amoros et puis Jean-François Pérez, je l'évoquais à l'instant. D'abord, la carte blanche de Nicolas Bouzou.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Et je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Nicolas Bouzou, économiste. Alors vous avez écouté comme nous avec beaucoup d'attention le président de la République qui a beaucoup parlé de l'allègement des contraintes mais assez peu du vaccin. Et pourtant c'est essentiel.
Oui, alors c'est quelque chose qui m'a frappé. J'ai en effet écouté l'allocution du président de la République et je ne veux vraiment pas donner le sentiment de critiquer parce qu'on est dans une période qui est exceptionnelle et qui est sans précédent et c'est très difficile de gouverner, bien évidemment, mais j'étais quand même frappé par le fait qu'on parle assez peu, que le président parle assez peu du vaccin, sauf pour nous dire que la vaccination ne serait pas obligatoire, et ça, je pense que c'est une excellente idée. Il a aussi évoqué le fait qu'il a nommé un conseil scientifique, un comité citoyen, mais finalement, il n'a pas parlé en des termes extrêmement positifs de cette vaccination, alors même qu'il faut bien comprendre que la clé de la sortie de la crise sanitaire, bien évidemment, mais la sortie de la crise économique et sociale, c'est la vaccination.
Et c'est ce qu'ont bien compris les pays étrangers qui sont en avance sur la France.
Exactement, quand vous regardez l'Allemagne ou le Royaume-Uni, la question de l'organisation de la vaccination est vraiment devenue une obsession nationale. Ce qu'on voit bien quand on regarde des pays, même ceux qui ont bien maîtrisé le virus, comme l'Allemagne, comme certains pays asiatiques, c'est que cette maîtrise du virus, elle a un coût économique qui est extrêmement fort, parce que toutes ces mesures de distanciation sociale, elles entravent quand même le bon fonctionnement de l'économie. Elle rend bien évidemment impossible le fait de faire venir des touristes étrangers.
Et vous dites 6 mois de retard pour les vaccins, c'est 60 milliards de PIB pour l'économie
Absolument.
Française.
Absolument. Alors ça, ce sont des calculs qu'on a fait chez Asterès. Quand on regarde ce que coûterait à l'économie française, le fait d'obtenir l'immunité par le vaccin, non pas à la fin du premier semestre 2021, par exemple, mais à la fin de l'année 2021, si on prenait beaucoup de retard, on aurait un coût sur la croissance économique qui serait de l'ordre de 60 milliards d'euros et un coût sur les finances publiques qui serait de l'ordre de 30 milliards d'euros. C'est très important parce que ça veut dire que la meilleure politique économique aujourd'hui, en réalité, c'est la politique sanitaire et c'est la politique vaccinale. Et si je voulais provoquer un peu Bruno Le Maire, je dirais qu'aujourd'hui, le vrai ministre de l'économie, c'est Olivier Véran. Alors, ce que fait Bruno Le Maire est très important dans le domaine des aides aux entreprises. Mais si on veut véritablement sortir de la crise économique, bien évidemment, c'est le vaccin. Et c'est pour ça que, sur le plan social, cette question du vaccin, elle est très pressée. C'est à un mois près, parce que semaine après semaine, mois après mois, on va avoir des faillites d'entreprises en plus, des demandeurs d'emploi en plus, et puis des personnes qui vont se retrouver dans de très grandes situations de pauvreté, de précarité.
Et vous nous dites aussi ce soir, Nicolas Bouzou, qu'on est en retard, on l'a évoqué, mais aussi sur la logistique, réquisitionner des soignants comme en Angleterre, faire une campagne de communication, tout ça, ça n'est pas fait aujourd'hui
en
France.
Non, la question de la communication, par exemple, est laissée aujourd'hui en plan par le gouvernement, alors même qu'on sait bien qu'en France, il existe une assez grande défiance vis-à-vis des des vaccins. On pourrait parfaitement imaginer, par exemple, que le gouvernement fédère un certain nombre d'autorités scientifiques, d'autorités intellectuelles, pourquoi pas des grands sportifs, des people, oui. Qui montrent l'exemple, qui incitent les gens à se préparer, à se faire vacciner. Et ça me semble beaucoup plus urgent, pour être tout à fait honnête avec vous, que de créer un comité scientifique ou un comité citoyen. Je pense que sur ce sujet aujourd'hui, on a besoin d'efficacité, on a besoin d'organisation, beaucoup plus que de création de nouveaux comités.
Le comité, c'est une particularité de la France, vous le savez.
Voilà, exactement, vous savez ce qu'on dit, un problème, un comité, ben moi je préfère un problème, une solution.
Bien, merci pour cette carte blanche ce soir, et ce coup de griffe plutôt qu'un coup de cœur. On peut
c'est
dire
vrai,
ça, Nicolas Bouzou.
Absolument.
Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
19h20, vous restez avec nous. Dans un instant, Alain Giresse, Luis Fernandez, Manuel Amoreau, c'est nos correspondants partout dans le monde pour évoquer la figure de la légende, Diego Maradona. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h22, le Club des Idées consacré ce soir à la légende du football, Diego Maradona, qui s'en est allé ce soir. Il avait 60 ans, tout rond. Il est mort d'une crise cardiaque. On va en parler donc très longuement jusqu'à 20h avec nos invités, notamment Luis Fernandez. Bonsoir Luis, merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Eh bien, comme tout à chacun et tous les invités que je reçois depuis tout à l'heure, d'abord j'aimerais avoir votre réaction, et puis deux, l'image qui vous vient ce soir en premier lieu de Diego Maradona.
Parce que aujourd'hui il y a beaucoup de tristesse, et après avoir perdu un ami comme Christophe Dominici hier, le rugbyman, aujourd'hui on a la tristesse d'apprendre le décès de Diego Armando Maradona. Diego, c'était quelqu'un qui nous a fascinés, quelqu'un qui nous a émerveillé, quelqu'un avec lequel j'ai eu l'occasion de le croiser oui. sur le terrain une fois, deux fois, de le voir jouer avec la section d'Argentine, de le voir jouer avec le Naples. Voilà, on ne peut pas rester insensible au talent, qu'il avait, qui était immense. C'est quelqu'un qui marquait des différences. Voilà, vous savez, dans le football, il y a eu Pelé, il est encore là de nos jours et qui reste le plus longtemps possible. Bref, il nous a quittés, on a Platini qui est toujours là. Voilà, pour moi, c'est mon quatuor, c'est le quatuor de ces grands qui marquent une époque dans laquelle on a commencé, nous, jeunes, à jouer au football.
Oui.
On est tombé sous l'admiration de ces joueurs-là. Et après, quand on a grandi, on a eu l'occasion de les côtoyer et de les rencontrer. Alors, vous me parlez de Maradona. Bah oui, Maradona, j'ai le souvenir de Maradona en 86 parce que j'ai fait cette Coupe du Monde, mais j'ai pas eu l'occasion de jouer contre. C'est le but qui marque avec l'Argentine, quand pas de la main, parce que c'est pas celui-là qui me marque, moi, parce que celui-là, tout le monde aurait pu le faire. Mais celui, quand il a éliminé 5, 6, 7, 8 joueurs anglais pour aller marquer, celui-là, oui. Celui-là, je peux le demander à d'autres. Je pense qu'il y en a, oui. Il y en a beaucoup qui ne pourraient pas faire ce qu'il a fait ce jour-là. Et puis, il a été,
vous savez ce qu'on va faire, Luis Fernandez. On va le réécouter, ce moment de génie.
Ouais.
On est contre l'Angleterre et Maradona part dans sa chevauchée fantastique lors de la Coupe du Monde, vous l'avez dit, en 86 au Mexique. Voilà, le but est absolument fantastique. Luis Fernandez, Manuel Amoreau est également avec nous, ancien international français qui avait affronté d'ailleurs la légende. Tout à l'heure, Jean-Michel Larquet, Manuel Amoreau, disait « Zidane a inventé des gestes, Maradona a inventé le football ». Vous êtes d'accord avec ça ?
C'est pour moi ?
Manuel Amoreau, vous êtes avec nous ?
Allô, oui, excusez-moi.
Manuel Amoureux, pardon, votre réaction d'abord à cette disparition.
Ouais,
et je disais, Jean-Michel Larquet disait tout à l'heure, Zidane a inventé des gestes, Diego Maradona a inventé le football. Est-ce que vous partagez
Oui et non, avant Maradona, il y a eu quand même des très 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 grands joueurs comme Pelé qui ont inventé aussi le football. Donc lui, il a été dans la continuité des uns et des autres et il a été un footballeur extraordinaire. Un vecteur pour les jeunes et quelqu'un qui a porté tout un pays, l'Argentine, de ses épaules et il a fait qu'ils ont été champions du monde en 86. Donc voilà, Maradona, c'était un tout, un personnage atypique, avec ses frasques en dehors du football et un génie sur le terrain.
Oui. Quel souvenir en gardez-vous, vous, la première image qui vous vient?
Moi, j'ai eu la chance de le rencontrer en 86, au mois de mars, en préparation de cette Coupe du Monde en 86, un match amical. bah, c'était déjà c'était un joueur hors norme, des qualités technique, puissance, un petit gabarit qui vous prend de vitesse sur 2 ou 3 mètres et qui vous dribble dans des petits espaces. Voilà, c'est pour nous, anciens joueurs ou joueurs de football, c'est une perte immense pour le football mondial.
Oui, c'était quelqu'un qui était sympa sur un terrain ou il était dans un combat, dans une forme de, ouais, de lutte ?
Il était toujours dans le combat parce que on voulait tous l'attraper et lui donner des coups. Quand on est arrivé à lui donner des coups, il se relevait, il revenait à la charge pour de nouveau prendre des coups et vous tribler, essayer de vous mettre minable. Mais c'était quelqu'un qui n'avait peur de personne. Et c'est pas, je dirais, comme aujourd'hui où les joueurs se roulent par terre pendant 5-6 minutes. Lui, c'était.
Pourtant, il a joué en Italie.
Oui, il a joué en Italie à l'époque où il y avait le catenaccio. Le catenaccio, ouais, c'était complètement très difficile. Et il s'en sortait. Il s'en sortait pourquoi ? Parce qu'il avait un caractère et une puissance pour accuser les coups qu'il prenait et qui faisait de lui un joueur hors norme.
Ça, c'était un événement incroyable, Luis Fernandez. Hein, le 5 juillet 1984, quand Maradona rejoint le club de Naples, modeste club à l'époque de Serie A en Italie, pour une somme absolument record. Et il est accueilli, rappelons-le, en héros. 70 000 supporters napolitains assistent à sa présentation au stade San Paolo. C'est du jamais vu.
Bah, c'est du jamais vu parce que je pense que déjà, il avait déjà commencé à marquer de son empreinte au football. On le voyait déjà s'exprimer sur un terrain, faire des choses comme disait Manu. Il était exceptionnel dans ses prises de balles, dans ses dribbles, dans son contrôle, dans sa vivacité, son adresse. Voilà, c'était. Et puis quand on le voit arriver à Naples, et ben, le peuple de Naples aujourd'hui doit être énormément triste parce que ce peuple-là, il l'a rendu heureux, il l'a rendu joyeux, il lui a apporté, il lui a donné. Alors, c'est vrai qu'avec cette équipe de Naples, si on cherche les coéquipiers de Maradona du côté de Naples, il n'y en a pas beaucoup que l'on connaît. Et lui, il a été d'un état d'esprit remarquable dans ce club, dans cette ville. Il a gagné le titre de champion d'Italie. Il a gagné, parce qu'à cette époque-là, le champion italien était certainement le meilleur, un des meilleurs championnats européens. Oui, il fallait quand même le souligner. Et puis après, il leur a fait gagner aussi une Coupe d'Europe. Alors, je dirais, voilà, c'est ça que c'est la marque des grands. Voilà.
Quel parcours. Vous restez avec nous encore quelques instants, Luis Fernandez.
Moi, il va falloir que je m'en aille.
Ah bon, bah alors on voulait bien, Luis Fernandez. Merci de nous avoir accompagnés en direct sur Europe 1. Manuel Amoros, vous restez encore un instant avec nous. Et puis Alain Giresse est avec nous juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h31, on est toujours en direct ensemble sur Europe 1, Europe Soir, et on parle évidemment de la légende Maradona, édition spéciale jusqu'à 20h. Tiens, quelques notes de musique, écoutez cela.
Si yo fuera Maradona, viviría como es. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier...
L'hommage de Manu Chao à Diego Maradona, ça s'appelle La Vida Tombola. Et on est en direct avec Alain Giresse, je le disais, 47 sélections, ancien grand international, vainqueur de l'Euro 84 avec les Bleus. Bonsoir Alain Giresse.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez cette musique et puis ce nom qui résonne évidemment pour tous les amoureux du football, Diego Maradona?
Maradona, c'est la magie du football, effectivement, ce que ça peut dire. C'est qu'un personnage, un joueur comme lui, peut déclencher d'abord sur le plan football avec des qualités exceptionnelles, un talent énorme et la capacité et le pouvoir d'amener des équipes à des performances, à des titres, comme Naples, un club et l'équipe nationale d'Argentine également. Et puis, c'est toute cette sympathie qui dégage. Maradona a une vie un petit peu compliqué, mais malgré cela, les gens ont compris que ne lui en veulent pas. Ils ont plus été peinés qu'il est comme ça, qu'il est pris de mauvais chemin, parce que c'est un garçon de la rue, quoi, qui sort de la rue.
C'est la question que j'allais vous poser, Alain Giresse. Rarement rarement un sportif aura été, comme il l'est lui, l'idole de tout un peuple, l'Argentine en l'occurrence, mais c'est vrai qu'il a une vie cabossée, une vie accidentée, Maradona, mais c'est aussi ça qui fait sa singularité, non ? Et qui fait ce qu'il est, et qui lui donne ce grain de génie.
Oui, c'est quelque chose qu'on, de toute façon, qu'on ne peut pas donner un exemple, mais en même temps qui fait que tout le monde a compris qu'il était pris par un engrenage dont il n'arrivait pas, il n'a pas pu s'en sortir dedans, et il n'a pas pu se rendre compte que c'était des travers qui allaient dû être néfastes, qui étaient néfastes pour lui. Et c'est comme ça, donc il a tiré cette forme de sympathie pour lui, pour la personne, et que les gens, avec tout ce qu'il leur avait donné, ne l'ont pas laissé tomber, quoi. Ils ont toujours été, et on voit un petit peu ce que ça peut déclencher en Argentine, mais même sur la planète du football, c'est un tsunami qui ravage tout et qui fait que il est unique.
Quel genre d'homme était-il dans l'ombre des vestiaires?
Oh, vous savez, il avait une vie de sportif, même le respect de la profession était un petit peu mis de côté, mais il, c'était accepté. Je l'ai vu à Naples arriver, je voyais Naples s'entraîner, je me demandais où il était, 20 minutes après il arrive, mais ses coéquipiers l'ont accueilli à collade, etc., parce que il savait qu'il disait c'est Diego, c'est ça, mais Diego, dimanche, on sait qu'on pourra compter sur lui et qu'il va nous faire gagner le match et des titres. Alors, voilà, et c'était sa force à lui, mais sans qu'il le veuille, et c'était, oui. Rien n'est, c'était pas artificiel, tout ça, oui. c'était vrai, c'était nature, voilà, comme il est, l'homme de la rue, et qui avait vécu comme ça dans les bidonvilles de Buenos Aires, mais après, il avait la même vie quand il était grand joueur.
Manuel Amoros, qui est toujours en ligne avec nous, ça vous fait réagir ce que dit Alain Giresse?
Ben oui, il a raison, dans le sens où il a été pris, comme disait Alain, dans un engrenage quand il est arrivé à Naples. Il n'a pas pu se sortir de cet engrenage. C'était un homme en deux, quelque part, parce qu'il avait cette vie de footballeur et il avait cette vie en dehors du football,
oui.
Qui était pratiquement plus prenante, entre guillemets, pour lui que le football. Et c'est vrai que là-bas, c'est un dieu. Il arrive, il gagne des championnats, dans un championnat très compliqué, très difficile. Voilà, donc à partir de là, c'était un personnage que tout le monde adorait. Alors que, bon, on oubliait qu'il arrivait en retard, ou que, comme disait Alain, le dimanche, il répondait présent et il faisait gagner son équipe et il faisait gagner toute une ville.
Ouais. Ce qui est fou, c'est la manière dont il a appris le football. Vous l'avez dit, il vient d'une famille modeste, grandit dans un bidonville de la banlieue sud de Buenos Aires, avec une maman qui fait des ménages et un père qui travaille dans le bâtiment. C'est un élève médiocre qui ne va pas beaucoup à l'école. Et en fait, il apprend le football dans les rues du bidonville dans lequel il habite, et il sera repéré ensuite à l'âge de 10 ans avant de devenir professionnel aux Argentinos Juniors à 15 ans en 75. C'est un parcours unique, parce que des parcours comme cela aujourd'hui, ça n'est plus possible.
Non, ce n'est plus possible. D'abord, parce que les conditions ont changé, les clubs sont structurés différemment. Mais en même temps, il faut quand même ramener cela au talent énorme qu'il a hérité. Il a hérité parce que c'est comme ça. Il a été fait pour le football. Il a des qualités exceptionnelles, rares. Quelquefois, les gens, là, à travers malheureusement son décès, disent est-ce qu'il a inspiré ? Il nous a inspiré par le plaisir, l'envie de jouer au football, l'envie de voir ce qu'il était capable de faire. Mais on ne peut pas s'inspirer d'un joueur comme lui, c'est trop haut.
Oui.
On dit ouais, jouer comme Maradona, mais pardon, mais les qualités qu'il avait, comment avoir un tel niveau de qualité pour pouvoir s'inspirer? Non, ces joueurs-là, comme lui, ils ont autre chose qu'on ne peut pas atteindre, qu'on ne peut qu'admirer.
Manuel Amoros?
Oui, Maradona, il n'y en aura qu'un, et il n'y en aura toujours qu'un, par c'est un don de Dieu. Dieu lui a donné ce don-là, et il a su en profiter quand il était jeune, et il a eu, bien sûr, des gens autour de lui qui l'ont aidé à progresser dans le monde du football et à apprendre le football, la technique, la vivacité, l'envie de surpasser. Donc voilà, il a trouvé des gens autour de lui, jeunes, qui l'ont aidé à grimper et à devenir ce qu'il est, ce qu'il, il est devenu. Hein.
Alors, il a été une icône, un joueur iconique, et puis ensuite, il est devenu entraîneur, ça a un peu moins bien marché. Je voudrais vous entendre là-dessus, messieurs, dans quelques secondes. D'abord, sa réaction à lui. Il est sélectionneur de l'Argentine et son équipe est éliminée en quart de finale de la Coupe du Monde 2010, 4-0, ça fait très mal face à l'Angleterre, ça sonne comme une forme de revanche. Maradona est donc sélectionneur et il dit ceci.
Il y a le résultat, la déception, et je le vis aussi mal que les joueurs argentins. J'ai bientôt 50 ans au mois d'octobre et c'est le plus dur moment de ma vie. Il y a tous ces joueurs, tous ces professionnels, tous ces gens de l'encadrement autour de moi et c'est comme prendre un coup de poing au visage. Je n'ai plus de force pour rien.
Bon, on sait, Alain Giresse, qu'un bon joueur ne fait pas forcément un bon sélectionneur et un bon entraîneur, mais quand même, c'est vrai qu'il y a un monde d'écart entre le joueur Diego Maradona et le sélectionneur.
Oui, évidemment, parce que c'est toujours délicat, surtout pour ces joueurs, ces immenses joueurs, dont pour eux le football était simple et facile, de se mettre à la portée de joueurs qui n'ont pas le même niveau et de les amener à d'utiliser leur potentiel à eux. Et donc, c'est une forme d'exigence qu'ils peuvent avoir, mais qui ne correspond pas au potentiel de l'équipe. Après, Diego est devenu entraîneur. Je ne pense pas qu'il ait fait beaucoup de formation. Il a fait des formations. On a pris ses Diego, on l'a pris plus pour son image que le fait qu'il avait eu une formation qui correspond aux besoins même d'un grand joueur, parce que Diego avait le savoir-faire, mais de faire savoir, après, c'était un peu plus compliqué. Et là aussi, c'est pareil, vous voyez, bon, ça n'a pas été une grande aventure, mais vous voyez, dans tous les à-côtés qui ne se sont pas très bien passés, mais personne ne le retient, ça. Personne ne le retient, oui, ça n'a jamais écorné, c'est assez exceptionnel et rare, parce qu'il a déclenché quelque chose, c'est un phénomène autour de sa personne, que même, par exemple, prenons un garçon comme Lionel Messi, qui a aussi c'est un extraterrestre, je ne pense pas qu'il déclenche ce que Diego Maradona a déclenché sur le plan de cette dimension d'image et de reconnaissance.
Et c'est vrai qu'il n'y en a pas 50 des sportifs comme ça. Il y a peut-être Pelé, il y a peut-être Michael Jordan pour le basket, et puis il y a Diego Maradona, Manuel Amoros.
Oui, c'est exactement ça. Hein. Maradona a été porté par tout un peuple. Il a donné énormément pour ce peuple-là. Et les Argentins, et les Napolitains lui ont rendu très bien. Donc c'est vrai, comme entraîneur, il a été là surtout pour l'image du joueur et de la personne qu'il représentait. Mais c'est vrai, comme entraîneur, malheureusement, il n'a pas réussi. Il aurait pu aussi réussir, mais il est passé dans des clubs aussi qui n'étaient pas non plus très huppés. Hein. Donc, à part la sélection d'Argentine, il avait les meilleurs joueurs argentins, mais c'était quelqu'un qui était apprécié dans tout le monde du football en général.
Vous restez avec moi, messieurs. Jean-François Pérez, chef du service sport d'Europe 1, est également avec nous. Jean-François, c'est vrai qu'il y a deux Maradona, mais il arrivait à concilier les deux quand il est à Naples et qu'il mène le Napoli au plus grand titre de son histoire jusqu'à le faire devenir l'un des plus grands clubs d'Europe. À l'époque déjà, sa forme physique est déclinante, sa propension à faire la fête est décriée dans les journaux, et malgré tout, il est au top de sa forme sur le terrain.
Oui, quand il arrive à Naples en 1984, il sort d'une expérience terrible à Barcelone, et je pense qu'Alain Giresse et Manu Amoros s'en souviennent, parce que il était arrivé comme le petit prodige du foot argentin. On attendait monts et merveilles de lui. Il a découvert la pression. Il a aussi et surtout découvert la dureté des défenseurs espagnols qui ont été terribles avec lui. Il prenait des coups abominables. On ne pourrait plus faire ça aujourd'hui sur un terrain de football. Et parallèlement à ça, il continue à mener sa vie, faite de frasques, de fêtes nocturnes, et à Naples, Il n'a fait que décupler ce mode de vie. Sauf qu'il était à l'apogée de son niveau sportif. Il est arrivé en 84, je vous le disais. Il a offert à Naples son premier titre de champion d'Italie. Naples, c'est un petit club à l'époque qui n'a quasiment rien gagné dans son histoire. Et Maradona fait de lui un champion d'Italie contre les grandes puissances du Nord et notamment la Juventus Turin de Michel Platini. Ça aussi, c'était un duel extrêmement symbolique. Puis il y a la Coupe du Monde 86. Puis il y a la Coupe de l'UEFA gagnée par Naples grâce notamment à Maradona. Et à côté de ça, il y a les soirées en boîte de nuit, la découverte, hélas, des drogues récréatives dont il va user et abuser. Et puis des fréquentations terribles avec la mafia napolitaine qui vont l'enfermer dans une espèce de logique dont il ne parviendra plus à sortir en tant que joueur. Et le reste de sa carrière sera une pente descendante, plus ou moins spectaculaire, hélas. Mais les plus belles années, c'était l'Argentine de 86 et c'était le Naples de 84 à 90.
Oui, vous êtes d'accord, Manuel Amoros?
Oui, c'est absolument. Oui. C'était malheureusement quand il arrive à Naples. En fin de compte, il n'aurait jamais dû signer à Naples. Pour footballistiquement, bien sûr que c'était super, un petit club à l'époque, hein, qu'il en a fait un grand club. Mais c'est vrai qu'en allant à Naples, avec tout ce qu'il y avait autour de ce club-là, c'était pas évident de pouvoir s'en sortir sans laisser de traces. Donc, parce qu'il y a toute une cohorte de gens qui vous entourent et qui vous amènent dans des endroits où, pour un footballeur, avec une vie saine, n'a pas le droit d'aller, quoi.
Oui, et on est en ligne justement, vous restez avec nous encore, Manuel Amoros, on est en ligne avec Aude Villiers-Moriamé, qui est notre correspondante sur place à Buenos Aires, où c'est l'émotion, évidemment, on l'imagine, dans tout le pays, même plus que l'émotion, une tristesse immense qui traverse l'ensemble de l'Argentine. D'ailleurs, les autorités ont décrété ce soir un deuil de 3 jours.
Oui, évidemment, c'est l'émotion qui domine dans le pays d'origine de Maradona. Ici, c'est bien sûr une idole surnommée Dieu, rien de moins que ça. Beaucoup d'Argentins ont en fait encore du mal à y croire. Les rues sont assez silencieuses, c'est assez curieux à Buenos Aires. Certains journalistes étaient eux-mêmes en larmes au moment d'annoncer la nouvelle. Sur les réseaux sociaux, beaucoup de réactions. Une partie de l'Argentine est décédée aujourd'hui, peut-on lire par exemple. Alors certains rappellent les polémiques évidemment associées à l'ancien joueur star, comme sa consommation de drogue, mais c'est surtout l'affection qui domine dans les messages qu'on peut lire. La réaction de Lionel Messi, l'autre grand nom bien sûr du football argentin à l'instant, il nous quitte mais il ne s'en va pas. Réaction également du président argentin Alberto Fernandez qui déclare « Tu nous as rendu énormément heureux, tu as été le plus grand de tous, merci d'avoir existé Diego ». Alberto Fernandez qui a suspendu son agenda jusqu'au vendredi. Et puis vous l'avez dit, évidemment, 3 jours de deuil national ont été décrétés. Alors il va y avoir des rassemblements ce soir, notamment à Buenos Aires, à l'Obélisque. Pour l'instant, il n'est que 15h45 ici à Buenos Aires. Des milliers de personnes sont attendues à l'Obélisque, et ce malgré la pandémie. Vous l'avez sans doute dit, mais Diego Maradona avait une santé fragile. Les Argentins le savaient et étaient déjà inquiets parce qu'il avait été opéré il y a moins d'un mois d'un hématome au cerveau. Une opération qui avait déjà généré beaucoup d'émotions, beaucoup d'inquiétudes. Et donc, c'est une crise cardiaque qu'il a emportée ce mercredi midi dans sa maison de Tigré, en grande banlieue de la capitale, à seulement 60 ans.
Bien, merci Aude. Jean-François Pérez, vous entendez un deuil national de 3 jours et tout un pays, tout un gouvernement qui, tout d'un coup, retient son souffle pour rendre hommage à la légende.
Mais c'est normal. Diego Maradona, ça a été l'ambassadeur de l'Argentine pendant des décennies, pour le meilleur surtout, et puis pour le pire un peu aussi. C'est un joueur de foot qui est devenu l'objet d'un culte religieux, l'église maradonienne. C'est devenu quelqu'un qui a des ex-voto à Naples, où on va se recueillir pour se souvenir de ce qu'il a été, pour demander l'énergie, le talent, la force que Maradona a eu sur les terrains. Donc je ne suis absolument pas étonné. Et puis c'est quelqu'un finalement qui est entré dans la vie des Argentins, parce qu'il symbolise à la fois la réussite sportive de ce pays, mais c'était quelqu'un qui avait tellement de failles qu'on pouvait presque s'identifier à lui. C'était un demi-dieu qui était accessible parce qu'il chutait, parce qu'il a été suspendu pour dopage, parce qu'il a eu maille à partir avec des pouvoirs politiques. C'était quelqu'un qui pouvait se permettre d'insulter Donald Trump ou de prendre la défense des Palestiniens contre Israël ou de dénoncer Bolsonaro pour soutenir Lula. Et c'était quelqu'un qui avait une prise sur la vie qui était tellement large que les Argentins, malgré ses défauts, malgré malgré ses excès, l'adorer. Voilà, Maradona, il n'y en a eu qu'un. Il est mort ce soir. Je pense qu'on l'a tous aimé d'une manière ou d'une autre. On le pleure tous ce soir. Mais il faut bien insister sur le fait que quelqu'un comme lui, il n'y en aura plus. Voilà. Et il faut le considérer comme tel avec ses points positifs et avec ses zones d'ombre.
C'est vrai que c'est triste de le dire comme ça, Alain Giresse. Il n'y en aura plus de Maradona, de légende de cette manière-là du football. Alain Giresse est toujours avec nous. Alain Giresse, Manuel Amoros peut-être est toujours avec nous. Manuel, je vous laisse réagir à ce qui vient d'être dit.
Oui, c'est vrai que Maradona, il n'y en aura qu'un, il n'y en aura plus jamais. C'est comme, malheureusement, on n'est pas éternel dans la vie. Il n'y aura sûrement plus Pelé dans, j'espère, le plus tard possible, mais il a 80 ans. Donc, on se souviendra de tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'il a vécu, Maradona. Oui, c'est vrai que Maradona, il n'y en aura qu'un. Hein. C'est pas possible qu'il y en ait un autre, même si les joueurs sont difficiles à comparer et à ressembler. Il n'y en aura qu'un et Maradona restera éternel pour tous les amoureux du football, comme on était nous à l'époque.
Bien, merci beaucoup Manuel Amoros d'avoir partagé ses souvenirs avec, avec nous ce soir dans Europe Soir. 19h48, on va se retrouver dans quelques secondes avec les archives. On a fait un travail absolument extraordinaire ce soir, c'est avec Simon Rubin, le jour où, séquence quotidienne avec nos archives d'Europe Soir. Vous allez voir, on vous a trouvé des petites pépites pour parler de Maradona, restez avec nous. Et puis, quelques notes de musique avant de marquer une courte pause. C'est une chanson qui avait été faite par Maradona lui-même en 2008, au moment où le réalisateur Emir Kusturica avait produit un documentaire sur la vie de Maradona. Et celui qu'on entend chanter, c'est Maradona. On se quitte avec ça et on se retrouve avec les archives dans quelques secondes. À tout de suite.
Tal vez jugando pudiera. Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h51, suite de l'édition spéciale consacrée à la légende Diego Maradona. Il s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 60 ans d'une crise cardiaque. On en parle évidemment depuis 18h. Et Simon Rubin nous a rejoint. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Avec des petites pépites. Vous avez fouillé dans les archives et les armoires d'Europe 1 et vous avez retrouvé des trucs assez incroyables. On va donc en parler avec vous.
Oui, parce que Diego Maradona, c'est un monument. Et quand vous demandez à un footballeur ce que Maradona représente pour lui, eh bien en général, pour première réponse, votre interlocuteur souffle longtemps. En vérité, aucun mot ne convient à la légende argentine. Le vocabulaire, qu'il soit espagnol, français ou anglais, est bien fade comparé à l'histoire de ce gamin des bidonvilles de Buenos Aires. Un gamin qu'on disait trop petit pour jouer au foot et qui s'est révélé trop grand pour son sport, comme pour le monde entier. On le découvre d'ailleurs tout jeune sur un extrait de vidéo Super 8 hors d'âge. À l'époque, l'ado affirme avec aplomb « Des rêves dans la vie, j'en ai deux, jouer une Coupe du Monde et la gagner. » Souhait exaucé. Sur un terrain, le joueur fait oublier le jeune homme claudiquant et mal à l'aise. À Barcelone, Naples notamment, il va forger sa légende. Jusqu'à ce sommet de 86 Coupe du Monde, en pleine guerre des Malouines, les Argentins croisent la route de l'Angleterre. L'histoire de Diego s'entremêle avec l'histoire de son pays. Maradona marque deux buts. Le premier de la main, c'est celui que vous entendez. Et vous entendez aussi les commentateurs qui exultent. Et puis qui ensuite sont fous de stress parce que eux, en direct à l'époque, ils voient qu'il y a main, mais pas les arbitres. Ça fait 1-0 et puis 2-0, but de légende. Maradona qui dribble la moitié de l'équipe adverse, remontant à toute allure la moitié du terrain. Maradona avec ses courses atypiques, buste droit, rythme saccadé, fait d'accélération subite. Maradona gagnera cette Coupe du Monde. Il devient dès lors le symbole de cette Argentine debout, en lutte, et de ces quartiers populaires argentins qui brillent aux yeux du monde. Manuel Amoros, adversaire de Maradona avec les Bleus la même année, se souvient de ce symbole.
C'était pendant la guerre des Malouines, donc il a voulu montrer aux Anglais que l'Argentine était quelque part imprenable. Donc il a tout fait dans ce match-là pour battre les Anglais, et cette main qui marque le premier but, après il dit que c'est la main de Dieu, c'est la main qu'il a tendue, que Dieu l'a aidé pour marquer ce but-là, pour montrer que les Argentins sont toujours en vie et se redresseront toujours. Donc voilà, c'est quelqu'un dans les légendes du football. C'est quand nous on est footballeur et qu'on l'a connu, c'est c'est compliqué de pouvoir imaginer que quelqu'un comme ça est parti.
Maradona devient donc une star. D'ailleurs, un soir de match, Amoros lui demande son maillot et réponse de l'Argentin, désolé, mais je l'ai déjà promis à 6 personnes. Une star donc, avec ses excès. Évidemment, note en 88, Eugène Saccomano.
Maradona est une star du football et il se conduit, hélas, comme une star. Avant le match, enfermé dans sa chambre d'hôtel, il demande à ne jouer que 5 minutes. Il fait attendre le quart où se trouvent Pelé et les meilleurs joueurs du monde. Déjà le matin, il avait voulu faire la grasse matinée et il avait raté volontairement l'avion de Nancy pour qu'on puisse lui louer une limousine.
Rien n'est trop beau pour Diego Maradona, on le disait tout à l'heure. C'est celui qu'on voyait trop petit pour le foot et qui s'est avéré trop grand pour la vie elle-même, débordant. Jusqu'aux excès, drogue, alcool, dopage et des relations mafieuses qui contribueront à sa légende sombre. Écoutez cette archive Europe 1 de 1994 avec la correspondance de Dominique Dinglas.
Diego Maradona a vendu à la Camorra le championnat de la saison 87-88. C'est le camoriste repenti Pietro Pugliese qui a lancé l'accusation devant le tribunal de Rome. Les faits remonteraient à 1988. À l'époque, Naples domine le football italien et européen. À 5 jours de la fin du championnat, le titre semble acquis. Lorsque l'équipe subit une incroyable série de défaites, que Diego Maradona ait été lié aux camorristes, ce n'est pas une révélation. C'est le clan des Giuliano qui fournissait le champion en cocaïne. Mais les ex-équipiers de la star argentine s'insurgent, rappelant qu'ils étaient 11 joueurs sur le terrain et que la seule trahison de Maradona n'aurait pas suffi à faire perdre l'équipe.
Mais à chaque fois qu'il s'est trouvé au bord du gouffre, eh bien Maradona a été rattrapé in extremis par le foot. Il jouera un ultime mondial 94 où il sera pris pour dopage, puis repartira jouer encore jusqu'à l'âge de 37 ans en Argentine, avant de revenir en tant qu'entraîneur bien plus tard, notamment de la sélection nationale. Maradona, c'est celui qui faisait avec une orange ce que Zidane fait avec un ballon, dira plus tard Michel Platini, objet de fascination, d'adoration, de culte, dont la vie, tango tragico-comique, a toujours oscillé entre le génie et la bêtise. Maradona, qui aura inspiré des centaines de livres, de BD, de films et de chansons, notamment celle-ci de Rodrigo Bueno, star de la chanson argentine, qui raconte l'histoire de ce gamin, puis de cet homme qui débordait de talent, de vie comme de vice, d'un homme qui, de son vivant, est devenu Dieu.
Merci Simon, je retiens la banane et le ballon, j'aime beaucoup cette citation de Platini.
C'est l'orange.
C'est Platini l'orange, qui disait ça.
C'est Platini qui disait
l'orange,
ça.
D'orange.
C'est vrai qu'avec une banane, faire ça avec une noisette.
C'est plus compliqué, ouais, c'est vrai. Merci Simon pour ces petites pépites et ces archives. 19h57, j'en perds mon latin. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel de l'info. Et puis juste après, Émilie Mazoyer qui reçoit l'homme de lettres et le musicien Gaël Faye, auteur notamment d'Un petit pays. Il sera l'invité d'Émilie dans quelques secondes. Merci de votre fidélité. À demain.